table ovale sans ellipse, table ovale sans ellipse depuis Rodez. Et avant de présenter nos débatteurs, je dois rappeler que CFM invite à chaque table ovale, chaque mois, tous les partis politiques ayant une représentation dans un parlement ou ayant fait un score respectable à la présidentielle. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons seulement, mais c'est la qualité va remplacer le nombre, bien entendu, nous avons Steve Bruno pour Reconquête et Nicolas Bourgeon pour La France Insoumise. Et le premier sujet que nous allons évoquer, peut-être rapidement, mais enfin tout de même, on en sort, pour chacun de vos partis, même si je crois qu'en Aveyron, il n'y a pas des représentants très évidents, quel est le bilan que vos partis tirent des municipales en Aveyron? Peut-être La France Insoumise, pour commencer, monsieur Bourgeon.
Ben, nous, le premier bilan qu'on a, c'est une forte progression. Parce qu'on s'était pas beaucoup investi pour la dernière campagne en 2020. Là, on a eu beaucoup de résultats dans les grandes villes notamment, mais pas seulement, en dépit d'un haro médiatique qu'il y a eu sur la France Insoumise tous azimuts, depuis que ce soit par le corps politique, par tous les médias, détenus en majorité par des gens très riches et réactionnaires. Et ma foi, on s'en sort quand même très bien, malgré des configurations parfois difficiles, avec des triangulaires, avec des refus d'alliance, avec une division de la gauche. On a une progression assez nette.
Une progression de conseillers municipaux.
De conseillers municipaux, en pourcentage notamment, on a oui une belle progression oui en nombre de
ça va donner des grands électeurs.
Oui, ça va donner des grands électeurs en vue des sénatoriales. Oui, on a une belle progression en termes de conseillers municipaux, en effet, oui.
À la louche, ça fait combien de conseillers municipaux, François?
Là, je ne saurais pas vous dire, j'ai pas les chiffres exacts. Mais comme on part de très bas, la France Insoumise est un mouvement très jeune. Assez peu implanté historiquement, notre objectif c'était de planter des graines pour que petit à petit le mouvement diffuse, qu'on ait effectivement des grands électeurs, et c'est chose faite et on peut se satisfaire sur ce plan-là.
Alors Reconquête a-t-il planté des graines ?
Reconquête a planté quelques graines, c'est effectivement un mouvement encore plus jeune, si je puis dire, donc... Quelque part, il y a cette communalité, parce que nous aussi, en fait, nous ne sommes pas vraiment encore implantés dans les petites villes, dans les départements, dans les territoires. Mais c'est l'idée, en fait, de base, de commencer, en fait, par faire une implantation locale. Alors, en termes de chiffres, moi, je connais que ceux de l'Aveyron, où il y a eu un maire élu et 27 conseillers municipaux.
C'est où le maire ?
Voilà, ça je sais pas. J'ai pas eu la réponse. Mais voilà les chiffres qu'on m'a communiqués. Après, ce que je peux dire moi sur les élections, j'ai trouvé.
C'est-à-dire que ça partait de zéro, je suppose.
Ah ben ça partait, oui, de quasiment, oui, c'est ça, oui. Ce que j'ai trouvé en termes de stratégie sur les élections, évidemment, c'était ce qui s'est passé sur Paris, puisque la candidature de Sarah Knafou a quand même fait plus de 10%. Donc pour un premier essai, c'est plutôt pas mal, surtout que Paris, très très grande ville. Et pour un coup d'essai de Reconquête, je trouve que la mission est accomplie.
Bien, donc on a fait le tour sur votre bilan des élections municipales, plutôt en Aveyron si possible. Le deuxième sujet, c'est concernant les transports, justement en Aveyron, puisqu'on voit une ligne ferroviaire Rodez-Millau qui traîne à se remettre en place, on est même très inquiet en vérité. Rodez-Toulouse, on sait que ça fonctionne... pas très bien. Quant à Rodez-Paris, un train de nuit sur trois, si je ne me trompe pas, est annulé. Et puis, on reparlera, bien sûr, mais parlons déjà du ferroviaire, et puis on parlera de la RN 88 et des liaisons aériennes. Mais déjà, sur le ferroviaire, c'est dû à quoi ? Qui faut-il, j'allais dire, incriminer, parce qu'on ne peut pas dire que ça fonctionne. Monsieur Bruno ?
Alors non, ça fonctionne pas, mais ça a au moins le mérite d'être là. J'ai envie de dire, pour l'avoir prise plusieurs fois, ça a un côté pratique, mais quand vous avez des rendez-vous sur Toulouse, vous passez 2 heures dans le TER, allez, et 2 heures retour, c'est pas très rentable en termes de temps. Voilà, c'est un train qui s'arrête de partout. Bon, après, c'est un peu le principe des trains régionaux, j'entends. Mais il devrait avoir, et cette initiative était super, d'avoir des billets à 1 euro. pour les gens qui sont loin.
Pour aller d'où à où ?
Ben pour faire Toulouse-Rodez.
Oui, oui.
Donc ça c'était une très bonne initiative pour les gens qui sont très loin, comme c'est notre cas. On est un département rural, mais on doit, pour des raisons professionnelles ou autres, se rendre dans des grandes villes. Et cet axe Toulouse-Rodez, c'est un peu un axe vital. Et je trouve, en fait, que de ce point de vue-là, les prix des billets sont un peu excessifs, hein, pour faire 2 heures.
Et la fréquence et la vitesse, c'est...
Alors, on est sur des trains qui ont quand même 8% de suppression de train, 15% de retard. C'est une ligne vétuste en sous-investissement chronique. Et ni la région n'est capable de tordre le bras à la SNCF pour investir massivement comme il le faudrait sur cette ligne. C'est un gros problème. C'est un gros problème aussi comme sur la ligne Sévrac-Millau, qui est une ligne transversale qui est structurante pour le réseau Aveyronnais et pour lequel la région n'a pas de véritable volonté de revenir là-dessus. En 2017, quand la ligne a fermé temporairement, les auditeurs ne le voient pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts, pour soi-disant des travaux. Là, on est presque 10 ans après. La SNCF avait annoncé en 2017 que la ligne rouvrirait en 2026. On voit maintenant qu'elle est laissée aux orties, qu'il n'y a aucune volonté ni de l'État, ni de la SNCF, ni de la région de rétablir cette ligne. Et on a même des élus aveyronnais qui proposent d'en faire une voie verte, c'est-à-dire d'enterrer définitivement la ligne Sévrac pour en faire une voie pour les vélos. Donc c'est un gros problème. Dans un contexte où on est confronté de façon inéluctable à court, à moyen terme, à une hausse structurelle du prix du diesel, c'est évident qu'on doit se tourner vers des moyens alternatifs,
dont le ferroviaire est important. Est-ce que c'est compensé par un système de car, ou, qui d'ailleurs évoquerait le problème du diesel, mais est-ce qu'au moins c'est compensé ?
Alors oui, il y a des cars pour aller à Millau, effectivement, mais c'est pas une solution. C'est pas une solution. On doit pouvoir avoir des trains. C'est quand même, quand on compare le réseau ferroviaire il y a un siècle et celui de maintenant, on constate un regret, on constate un retour en arrière qui est plus possible. On a une bifurcation écologique à prendre de façon urgente. On a un diesel qui devient de moins en moins accessible. Il faut investir massivement sur le ferroviaire. Et le problème, c'est que la SNCF, qui est mise en concurrence avec des compagnies privées, se voit obligée de se concentrer sur des grands axes comme le Paris-Lyon, qui sont rentables, et délaisser clairement les petites lignes comme nous en Aveyron. En Aveyron, là, on est voué, selon les stratégies mises en place par la SNCF, par la région, à ne plus avoir de ferroviaire du tout. Effectivement, le TER pour aller à Toulouse, si on a une réunion à 8h30, on ne peut pas le prendre. C'est pas possible. Donc l'État doit reprendre en main le ferroviaire, absolument, parce que la logique de rentabilité qui s'impose, la logique libérale qui veut qu'on soumet les trains à concurrence et puis on laisse faire, ça ne peut pas fonctionner dans des territoires comme l'Aveyron.
Il s'agit d'acheter un service. Est-ce que ça regarde pas les collectivités locales ?
Les collectivités locales n'ont ni les moyens financiers, ni l'autorité politique pour obliger la SNCF à investir, ce qu'elle ne fait que dans l'urgence. Elle fait des plans d'urgence, elle débloque des petites enveloppes de ci, de là pour essayer de rapiécer les morceaux, mais ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit l'État, seul l'État a l'autorité politique, la légitimité, les moyens matériels de déployer un réseau ferroviaire efficient.
Aucun de vous deux n'évoque Rodez-Paris.
Alors Rodez-Paris, c'est plutôt l'avion, très honnêtement.
Mais voilà, c'est là que je... Ouais. Alors moi, je voulais vous amener.
Alors juste du point de vue professionnel, déjà, c'est quand même plutôt pas mal fait. Ça, je dois dire, c'est quand même pratique. Alors même si l'avion est un peu tôt, mais ça permet en fait de prévoir des journées professionnelles sur Paris sans problème. Donc ça, c'est pas mal. Après, c'est vrai que pour le train de nuit, c'est plus compliqué. Mais bon, ça, c'est dommage. Je vous l'accorde.
C'est surtout le moyen de transport le plus rapide, hein.
Alors l'avion, oui. Après, le train de nuit, il y a la problématique en fait des horaires, de l'organisation. Hein, mais je trouve que c'est dommage que ça soit pas plus efficace, surtout dans un contexte où on est quand même sous pression pour électrifier tous les déplacements. Et de se dire que y a assez peu de gens, somme toute, qui prennent ce train de nuit. Ça ne doit pas être une option très intéressante. Mais en tout cas, d'un point de vue professionnel, Moi, je préfère largement prendre l'avion. Et je trouve que l'aéroport de Rodez est un bel outil pour ça.
Alors,
je suppose qu'il va y avoir un débat.
Ah oui, là, il y a débat, parce que l'aérien, évidemment, c'est un moyen polluant, c'est un moyen qui n'est pas accessible à tout le monde. Il y a une grosse inégalité d'accès, et c'est surtout un moyen très polluant. On ne peut pas investir dans l'aérien comme le fait la région, et comme le font toutes les collectivités.
Parce que là, la région investit.
Bien sûr, bien sûr. Le billet de train Rodez-Paris que prend mon interlocuteur, il est cofinancé largement par
un syndicat. Le billet d'avion, vous vouliez dire.
Le billet d'avion, oui. Il est financé largement par les collectivités via un syndicat mixte et ce n'est pas négligeable. C'est des montants importants qui sont investis par les collectivités dans l'aérien, alors que le ferroviaire est en sous-investissement. Donc c'est un gros problème. L'aérien ne peut pas être une solution viable, ni à moyen ni à long terme.
Bon, alors, oui et non. C'est que pour l'instant, en réalité, quand on va se déplacer sur Paris, mais vous pouvez aller plus loin. Si on a des déplacements à faire sur Londres, sur l'Irlande ou dans d'autres villes européennes, c'est quand même assez pratique. Aujourd'hui, effectivement, il y a potentiellement un souci de pollution. Ça, on peut parfaitement se mettre d'accord là-dessus. Heureusement, il y a une chose qui s'appelle la science. Et il y a des biocarburants. On va peut-être arriver, si on y met les moyens, à développer des kérosènes qui sont pas du tout polluants. C'est déjà en cours. Il y a des grandes boîtes qui travaillent dessus. Donc c'est potentiellement une solution. Au même titre d'ailleurs que l'électricité nucléaire, parce que c'est bien beau les éoliennes, mais vous les voyez tourner les éoliennes là-bas ? Ça tourne jamais. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de financer Astrid ? Astrid, c'était un super projet qui permettait en fait de recycler le combustible nucléaire qu'on avait dans nos centrales pour produire de l'énergie propre. Pourquoi ?
Là, on nous reparle de Super Phoenix d'une certaine manière.
Ben, heureusement, parce qu'il faut quand même faire confiance à la science, quelque part. Jusqu'ici.
Ça traînait beaucoup, Super Phoenix.
Je suis d'accord avec le fait qu'il faille faire confiance à la science, et la science dit que la déforestation engendrée par les biocarburants pose un grave problème écologique. Que pour cultiver les biocarburants, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Donc, ça n'est pas, les biocarburants ne sont évidemment pas une solution. La solution, c'est la sobriété. Ça, c'est un mot d'ordre auquel il va falloir se rallier massivement, parce que il va nous être imposé par l'évolution de la conjoncture climatique et écologique. Donc, c'est évident que les biocarburants ne sont pas une solution.
Alors, moi, je trouve rien d'évident là-dedans. Encore une fois, pour moi, la science est quelque chose de dynamique. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on saura demain. Et heureusement, quelque part, il y aura certainement, et je l'espère, moyen de trouver des formules qui puissent faire en sorte que le coût ou l'empreinte carbone de ces choses ne soit pas trop important. Et je crois que ça sera le cas.
Il y a une question qui m'interpelle quand même, c'est que outre ce dont vous venez de débattre tous les deux. Mais si j'ai bien compris, la région subventionne l'aérien et pas le ferroviaire.
Exactement.
Pour aller de Rodez à Paris.
Exactement.
Ça interpelle
le Rodez-Paris qui est en permanence sur la sellette. Je parle du ferroviaire. Et en permanence sur la sellette, il est tributaire d'appui politique qu'il a et puis qu'il n'a plus, et il est sans arrêt menacé d'être supprimé. Il y a régulièrement des trains qui sont supprimés. Il n'y a pas de réelle volonté d'établir une liaison durable et fiable.
Alors ça, par contre, le fait qu'il y ait des infrastructures aéroportuaires ou l'avion, c'est une chose. Mais c'est pas exclusif au fait qu'il devrait aussi avoir un développement du ferroviaire. C'est quand même important. C'est quand même un moyen de transport important. Et je pense en particulier au transport de marchandises aussi. Parce que, pardon, d'avoir des poids lourds sur les autoroutes qui consomment et qui polluent, ça, moi, je trouve ça, je suis pas d'accord.
On aura peut-être un point d'accord, là.
Potentiellement. Moi, je ne comprends pas que le ferroutage aujourd'hui ne soit pas plus développé que ça. Voilà. En plus,
on n'en réentend plus parler, parce que d'habitude, on entend parler du ferroutage, mais ça sert à rien. On en
fait, c'est bien dommage.
Le problème du ferroutage, c'est que ça nécessite deux démarches qui sont complètement étrangères à notre gouvernement actuel et à la droite en général.
Ah, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle et qu'on ne fait qu'en parler.
Et la planification. Si on veut faire du ferroutage, si on veut faire du ferroviaire, il faut anticiper, il faut pas agir au coup par coup, il faut une vraie volonté politique, il faut des investissements et tout cela, la droite et le gouvernement actuel n'en veulent pas.
Alors ça nous a amené le ferroutage et les camions. Ça nous amène à la RN 88, et oui. Qui est une préoccupation, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, la France insoumise.
Alors c'est un projet.
Oui, c'est révélateur.
C'est un projet effectivement qui nous vient de loin, qu'on traîne un petit peu comme Notre-Dame-des-Landes qui a traîné pendant 50 ans. C'est un petit peu la même chose. C'est une vieille rengaine. C'est un projet complètement archaïque, écocidaire, qui envisage de défigurer le Causse-Comtal pour faire une extension de la RN 88, une grosse deux fois deux voies qui permettrait aux camions du transit international, des camions de marchandises, aux frais des contribuables aveyronnais, de venir saccager leur environnement, de venir perturber leur sérénité, de venir bouleverser leur aménagement du territoire. Voilà, c'est un projet qui n'a aucun sens, qui est vraiment en survie pour des raisons politiques complètement...
Rappelez-nous, la RN 88, elle relie quoi?
Alors,
à
Séverac, à Onet-le-Château, c'est 40 km de deux fois deux voies, 500 millions d'investissements sur 20 ans. Alors, une consultation est prévue...
Mais au-delà de Séverac, elle va où?
Ça va. Alors, la RN 88, maintenant, elle va de Saint-Étienne à Toulouse.
Voilà, c'était ça ma question.
Voilà, la RN 88 va de Saint-Étienne à Toulouse. Là, ce qui nous intéresse, c'est un tronçon qui va de Séverac à Onet-le-Château et donc à Rodez, qui actuellement n'est pas, c'est pas insupportable. Je veux dire, elle est tout à fait praticable cette route. C'est absolument pas nécessaire. Et puis. Comme le contexte actuel nous le rappelle, on aura l'air malin avec notre belle deux fois deux voies et notre Causse-Comtal complètement défiguré en zone nature à 2000 d'ailleurs avec des espèces protégées, etc. On aura l'air malin quand le diesel sera à 3, 4, 5 euros et que y aura que les camions qui viennent de Pologne et pour aller en Espagne qui l'emprunteront avec qui dégraderont la chaussée, etc. Non, c'est un projet délétère.
Reconquête.
Je suis assez d'accord. En fait, sur ce tronçon-là de la RN 88, encore une fois, pour moi, je trouve que c'est dommage de pas exploiter, parce qu'il y avait quand même des voies de chemin de fer qui étaient avant. Je trouve dommage de pas exploiter. Il y avait une initiative qui a été développée dans le Lot qui s'appelait Rail Coop. Et ça, c'était pas mal, en fait, parce que c'était justement une sorte de coopérative qui avait entrepris donc de louer ou de racheter ces voies désaffectées de la SNCF pour faire du transport de marchandises et de passagers. Ça, c'était super intéressant.
En ferroviaire ou en routier?
En ferroviaire.
En ferroviaire.
Je comprends pas, en fait, il y a quand même des infrastructures existantes. Alors, sans doute qu'il faudrait les remettre à niveau, etc. Mais pour faire du transport de marchandises encore, c'est vraiment très dommage. Et là, je suis assez d'accord de dépenser de l'argent dans un axe, en fait, qui est pas un axe principal pour le département, surtout pour faire du transport de marchandises. Après, la RN 88, pour la prendre tous les jours, quand on fait, Nocelles ou Albi-Rodez, demander aux gens, ils sont plutôt contents. Là, c'est plutôt pas mal. Mais pour les camions, effectivement, sur l'axe Rodez...
Qui la paye? C'est l'État? C'est le département?
Alors,
c'est...
la région investit notamment. L'État investit de façon limitée. Et c'est un petit peu en cela que le projet a des problèmes pour évoluer. C'est qu'il n'a pas le financement. L'État ne veut pas abonder à outrance. La région investit largement dedans. Hein. Alors, quand Carole Delga nous dit que... le Séverac Millau, on peut pas le Séverac Rodez, on peut pas le rouvrir le train, mais par contre qui investit massivement pour la RN 88 et puis le département. Donc tout ça c'est nos impôts à nous aveyronnais et c'est un gros problème.
Alors ça nous amène aussi vous en avez abondamment parlé hein, au coût des carburants, bon, le diesel notamment hein, mais au coût des carburants et on est en ce moment, alors apparemment il y a un cessez-le-feu donc ça va baisser sûrement bref, on peut toujours espérer mais n'y a-t-il pas des mesures à prendre parce que déjà la plus élémentaire honnêteté consisterait à actualiser le barème kilométrique fiscal pour tous ceux qui s'en servent, que ce soit les taxis, les ambulances, les transporteurs. Mais ça va avoir une répercussion, me semble-t-il, pas seulement sur ce qui est transporté. Consécutivement, ça va agir sur toute l'économie. Est-ce que vous voyez les uns ou les autres des mesures, Monsieur Bonneau, pour Reconquête?
Alors, je trouve déjà que du point de vue fiscal, c'est trop, quoi. On dépasse. Mais dans ce pays, on a l'habitude, en fait, de tout surtaxer. Hein. Donc là, le carburant n'échappe pas, en fait, à cette maladie. Hein. Et donc, là, on en paye le prix. Parce que, effectivement, c'est pas déjà une denrée qu'on produit en France. Donc, on est sous un petit
on
peu...
On le produit d'autant moins qu'on a fermé des raffineries.
Exactement. Donc, on est un peu tributaire de ce qui se passe sur les marchés internationaux, sur des choses qui ne sont pas du tout complètement économiques, puisque là, c'est en l'occurrence des problèmes géopolitiques qui se posent. Et donc, on est victime de ça, quelque part. Mais on pourrait, pour aider l'économie, pour aider les gens, baisser les taxes, même si c'est temporairement. Ils l'ont fait en Italie, ils l'ont fait en Espagne. Pourquoi est-ce que nous, on ne le fait pas? Moi, c'est ça la question que je me pose. Je sais pas, qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'aider, en fait, même temporairement, les utilisateurs ou les routiers? Ils font bien, par exemple, des hausses de fiscalité temporaires. Bon, ça n'existe pas, ça, en réalité. La hausse de fiscalité temporaire, c'est un leurre, c'est permanent. Pourquoi est-ce que vous pouvez...
Un exemple de hausse de fiscalité temporaire?
Bah, la contribution sur les hauts revenus, toutes les super profits des entreprises, toutes ces choses-là, c'est des choses, des mesures qui étaient censées être limitées dans le temps. Bon, c'est reconduit régulièrement d'année en année.
Alors, je pense pas qu'en France, les hauts revenus puissent se plaindre d'une fiscalité excessive. C'est plutôt le contraire. Hein. C'est plutôt, on a un CAC 40 avec des bénéfices qui explosent. On a des hauts revenus...
C'est les bénéfices ou le cours des actions?
Les deux. On a...
Tant mieux.
Oui, bah en tout cas, alors en ce moment...
Tant mieux pour tous ceux qui ont des contrats d'assurance vie.
On ne peut pas se plaindre à ce moment-là qu'il y a une fiscalité excessive sur les hauts revenus et sur les super profits, parce que ça n'est pas du tout le cas. Hein. Si on regarde les chiffres, c'est absolument pas du tout le cas.
Revenons au carburant.
Oui.
Sur les taxes des carburants.
Oui, alors c'est très simple. C'est très simple. Le prix qu'on paye à la pompe, il y a une part qui va à l'État, effectivement, et il y a aussi une part qui revient aux raffineurs, et c'est là-dessus qu'il faut bloquer les marges des raffineurs et des distributeurs. Il faut bloquer les prix à la pompe dans l'urgence, tout en... On ne peut pas se contenter de ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le diesel, il va structurellement exploser. Le prix va exploser. Il faut que tout le monde s'y prépare. Ça demande, encore une fois, de la planification, de la préparation et de la volonté politique. Et donc,
Alors, on le remplace par quoi ?
Par du ferroviaire. Par de l'électrique, il y a eu une petite incitation il y a quelques années, il y a un an ou deux, de l'achat de véhicules électriques. Mais comme ça a marché, eh ben on l'a supprimé. Hein. Ça a duré très peu de temps. Il y a eu quelques milliers de cas de ménages qui ont pu, grâce à ces aides, acheter un véhicule électrique. Et comme on a vu que ça marchait, on l'a supprimé. Donc il faut électrifier le parc automobile. Et bien sûr, il faut développer le ferroviaire.
C'est ce que semble vouloir faire le gouvernement.
Le gouvernement, non. Non, il n'y a aucune mesure en ce sens.
Ils en parlent.
Et surtout, il faut qu'à moyen terme, on puisse tous accepter qu'un déplacement, c'est train-vélo. En train-vélo, en acceptant de faire 20 minutes de vélo, on doit pouvoir aller n'importe où.
Moi, depuis, je vais avoir du mal à faire 20 minutes de vélo.
Attendez, une seconde. Je connais quelqu'un qui habite à Rodez et qui travaille à Marcillac et aussi à la cavalerie. Il va aller à vélo
Il y a des possibilités de covoiturage. Alors, la montée de la cavalerie en vélo, effectivement, elle est un peu compliquée. Après, il y a des vélos électriques. C'est pareil, ça fait partie de l'électrification du parc. On peut tout à fait imaginer des mobilités douces combinées avec du ferroviaire massif. Et puis bon, pour cette personne qui habite à Rodez, qui travaille à Marcillac et qui travaille à la cavalerie, on bloque tout de suite le prix du carburant. Ça, c'est l'urgence absolue. On met des ménages. Là, cette personne, elle a 500 euros de budget mensuel de diesel. Vous imaginez, tout le monde ne peut pas budgéter comme ça doublement de son...
Que n'achète-t-elle une voiture électrique?
Et parce qu'elle n'a pas les moyens, évidemment. Il y avait des aides, il n'y en a plus. C'est dommage.
Monsieur Benoît.
Alors, moi, je ne suis pas un grand fan de l'électrification, en tout cas, étant donné la technologie actuelle. Je vais donner un exemple très simple. Aujourd'hui, vous regardez, étant donné les contraintes de production, il faut entre 20 000 et 40 000 km pour qu'un véhicule électrique devienne plus intéressant du point de vue écologique qu'un véhicule thermique. Entre 20 et 40 000 km. Comment se passe la structure du marché du véhicule électrique aujourd'hui? C'est quoi? C'est du leasing. 3 ans, 30 000 km. Grosso modo, c'est à peu près ça la moyenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après 3 ans, vous ramenez votre véhicule.
Ça veut surtout vous dire que vous faites 10 000 km par an.
Ce qui est dans notre département, pas vraiment courant. On fait beaucoup plus en général, parce que c'est un département rural, parce que les gens se déplacent beaucoup, donc c'est comme ça. Ça veut dire que du point de vue écologique, votre véhicule, vous le ramenez à la concession après 3 ans, vous n'avez même pas atteint le seuil à partir duquel il devient plus intéressant de circuler en électrique. Et vous repartez sur un véhicule.
Plus intéressant écologiquement parlant.
Bah oui. Donc ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas dessus. Et après, effectivement, ce sont des véhicules qui sont encore très chers aujourd'hui, hein, avec une autre problématique, c'est la durée de vie des batteries. Si aujourd'hui je fais un effort financier pour acheter ma voiture et que dans 8 ans, je dois remettre autant au pot parce que la batterie est morte, pardon, mais c'est ni un coût intéressant écologiquement, ni un coût intéressant financièrement.
Alors, aucun d'entre vous, j'avais commencé en parlant de l'honnêteté élémentaire qui consisterait déjà à revoir le barème des frais kilométriques pour les professionnels. Aucun de vous n'a évoqué ça.
Bien sûr, non, mais moi j'y suis tout à fait favorable. Après, là, on est dans le très court terme. Donc, c'est pour des mesures pour la politique et pour prendre des mesures fiscales. C'est compliqué, mais ça peut tout à fait se faire. Et moi, j'y suis bien entendu favorable, mais... Encore une fois, on n'est pas du tout dans la logique du gouvernement et de la droite qui est qui est plutôt de faire des cadeaux fiscaux aux très riches.
Bon, on passe à notre quatrième sujet. La baisse du nombre d'enseignants dans le département, j'ai vu qu'il y avait des protestations, des mouvements, des calculs. Monsieur Bourgeon,
Moi, je suis bien placé pour savoir qu'en Aveyron, on a des petits établissements. Et sur des petits établissements, une suppression de poste, elle est extrêmement douloureuse. On n'est pas sur des logiques d'économie d'échelle. On ne peut pas... déjà, la baisse du nombre d'enseignants, elle anticipe et elle surpasse largement la baisse démographique conjoncturelle actuellement qui fait que... Elle anticipe et elle surpasse, c'est-à-dire que elle surévalue largement la baisse démographique et elle supprime un nombre de postes largement supérieur. Et quand bien même, dans les petits établissements qui sont largement majoritaires en Aveyron,
c'est quoi un petit établissement ?
Un petit établissement, c'est un établissement de moins de 300 élèves. Les collèges en Aveyron, il y en a beaucoup qui ont même moins de 200 élèves, voire moins de 100 élèves, comme à Sévrac ou ailleurs.
Donc, c'est quelque chose qui touche les collèges et les écoles.
Tout à fait. Les collèges et les écoles. Et les lycées aussi, bien sûr. Mais les lycées, on est sur des établissements plus grands, mais où les suppressions de postes sont tout autant dramatiques. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que dans le parc scolaire aveyronnais, les suppressions de postes, elles sont extrêmement douloureuses parce que un établissement, enfin, c'est pas une logique comptable comme ça où on attend d'élèves, on prend, on supprime, etc. Il y a des logiques de fonctionnement qui font que... Moi, je suis documentaliste. Un CDI, il faut le faire tourner, qu'on ait... un CDI, donc c'est la bibliothèque du collège, il faut le faire tourner, qu'on ait 100 ou 500 élèves. Il y a des coûts de fonctionnement qui sont incompressibles. On ne peut pas supprimer des postes comme ça dans une logique purement comptable.
En matière de classe, on avait combien d'élèves par classe et on va finir par se retrouver avec combien d'élèves par classe?
Là, j'ai pas des chiffres précis. Je sais qu'il y a 23 postes supprimés en Aveyron, qu'il y a des fermetures de classes et qu'il y a des hausses d'effectifs dans les classes. De toute façon, un chiffre moyen, ça ne nous permettrait pas d'aller dans un sens ou dans un autre.
Mais, alors, moi, juste, je dirais, en fait, que ça s'inscrit, à mon sens, dans une baisse, en fait, des services publics en général, c'est pas limité aux écoles malheureusement. Il y a plus de postes, il y a plus de bureaux de poste, il y a plus, en fait, avant il y avait des perceptions, et en fait, il y avait des liens, ça crée beaucoup de liens sociaux.
Si on doit public. Remonter plus loin, il y avait des justices de paix.
Il y avait une représentation de l'État qui était beaucoup plus proche des citoyens. Aujourd'hui, c'est vrai que on a plus tout ça. Donc l'école, comme le reste, en fait, ça s'inscrit dans cette dynamique-là. Pourquoi
faut appeler ça une dynamique ?
Ah ben c'est une dynamique. C'est une dynamique et c'est malheureux. Parce que c'est quand même pas quelque chose, en fait, qui va contribuer, surtout dans des départements comme le nôtre, des départements ruraux. On a besoin de créer ce lien social. Et ces institutions publiques y participaient. L'école, en plus, a un lieu vraiment central dans la formation des citoyens. Moi, je trouve vraiment dommage, effectivement, qu'on retire, et souvent pas pour des bonnes raisons, on retire, en fait, des professeurs. Ben, il y avait le cas à Millau, au lycée, je crois, Jean Vigo, et des BTS, en plus. Donc, des choses qui étaient... des formations qui permettaient à des jeunes d'accéder tout de suite au marché du travail. Vous voyez ? Et pourquoi on retire ces professeurs ?
Sur des formations qui vont être supprimées ou...
Alors ça a été sauvé, hein. Celle de Millau a été sauvegardée. Alors,
sans doute vous parlez du BTS de Decazeville qui a été, effectivement menacé un petit moment et qui a été rétabli grâce notamment à l'action de Laurent Alexandre, le député de la 3e circonscription France Insoumise.
Et en fait, pour venir en fait sur ce sujet-là, moi je trouve effectivement que la question en fait que beaucoup vont se poser aussi, c'est qu'on a 3400 milliards d'euros de dette publique. Où va l'argent ? Si les services publics, surtout dans nos départements, disparaissent, où va l'argent ? Moi j'aimerais bien que tous ces politiques en fait qui sont passées depuis des décennies, chaque fois nous promettaient un audit des finances publiques en tant que citoyen. Et avec ma simple casquette de citoyen, j'aimerais avoir accès à un tel document, qui en est un. Une fois pour toutes, qu'on sache effectivement où sont passés ces milliards. Où vont-ils ? Et il y a sans doute beaucoup de choses à faire de ce côté-là. L'école est probablement une des mesures les plus importantes et les plus radicales à mettre en place.
Bien sûr, c'est le fondement. L'école, en fait, c'est le progrès. C'est-à-dire que c'est quelle capacité intellectuelle, citoyenne, on va donner aux générations futures. Donc c'est vraiment le progrès, il passe par l'investissement dans l'école. Après, moi, j'ai des réponses à mon interlocuteur sur les questions qui se posent. Où va l'argent ? Moi, je peux vous le dire, où va l'argent depuis 10 ans ? Il va dans les cadeaux fiscaux aux entreprises, il va dans la suppression de l'ISF, il va dans des cadeaux qu'on fait à des entreprises qui délocalisent ensuite. Voilà où est-ce qu'il va l'argent ? Il va dans une politique
réactionnaire. Dans les dépenses sociales, il va dans l'aide au développement. Enfin, moi, je ne comprends pas qu'on donne des centaines de millions d'euros à la Chine aujourd'hui. Honnêtement, c'est très bizarre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que...
Des centaines de millions.
Ah, c'est des centaines de millions d'euros.
Non, là, je crois qu'on est sur des chiffres qui viennent de nulle part. Là.
Bon, on regardera, c'est très simple, c'est facile. Regardez sur le site de l'aide au développement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux dire, il y a des choses, en fait, qui sont prioritaires. Il y a vraiment beaucoup de dépenses publiques à revoir. Pardon, on a un taux de chômage qui doit être à 7%. Il y a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Franchement. Donc, je suis désolé. Passé un moment, il faut que les gens aussi prennent leurs responsabilités. J'entends, par exemple, on parle du chômage, je dévie peut-être un peu, mais c'est simplement pour illustrer le propos. Qu'il y ait des coups durs dans la vie, ça arrive. Évidemment qu'il faut un filet de protection sociale, mais pas que ça devienne une habitude. Il faut arrêter aussi, en fait, d'avoir des allocations chômage sur 2-3 ans. Moi, pardon, je suis diplômé. Quand je suis arrivé ici, en Aveyron, j'ai commencé par coller des affiches.
Vous connaissez beaucoup de chômeurs qui sont indemnisés pendant 3 ans ?
Pendant des années.
Non, ça n'existe pas, évidemment. Et puis, pour faire un petit peu de pédagogie, parce que là, on dit beaucoup n'importe quoi, les caisses d'allocations chômage, elles sont abondées par des cotisations qui nous ouvrent des droits. Et ça n'a rien à voir avec le sujet de départ qui était l'éducation, qui est financé par l'État et les impôts. Donc ça, là, on est en train de mélanger vraiment...
Tous les services sont financés par nos impôts, hein, tous les services sociaux.
Oui, bien sûr, mais l'allocation chômage, ça n'est pas financé par les impôts, c'est financé par des caisses qui sont alimentées par des cotisations. C'est-à-dire que les gens qui bénéficient de droits de droits d'allocation, ils ont cotisé pour ça.
Oui,
d'accord.
Bien
oui,
sûr.
Non, mais voilà, c'est pas.
Mais ils ont
c'est
pas cotisé
de l'argent,
pour avoir.
C'est pas de l'argent qu'on prend pour fermer les écoles et qu'on donne aux chômeurs. Mais non, mais parce que c'est un peu ce que vous laissez
ça
entendre.
N'empêche
et ça n'est pas,
pas
du tout ça.
Ça n'empêche pas que un citoyen n'a pas que des devoirs, des droits, pardon. Il y a aussi des devoirs.
Quand il a le devoir de cotiser, en l'occurrence.
Il y a le devoir de cotiser. Oui, bah alors là, on pourrait en parler aussi. Parce que moi, pardon, quand je vois les questions qui se posent sur les retraites, par exemple, je dis pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas à des fonds de pension ? Pourquoi on n'a pas un système mixte, comme ils le font aux États-Unis ou dans les pays
anglo-saxons ? Oui, ça marche très très bien.
Oui, ça marche pas mal, effectivement.
Non,
ça marche
bien. Non, ça marche pas du tout.
On peut en même temps observer qu'il y a des régimes de retraite qui n'ont pas de problème.
Ah oui, oui, sans doute.
Chircaco n'a pas de problème, la CIPAV n'a pas de problème.
Non, non, et il y a des régimes de retraite entièrement par répartition qui n'ont pas de problème non plus.
Mais, sauf erreur, certains régimes de retraite des fonctionnaires, ils marchent déjà par capitalisation, non ?
Non, il y a une possibilité de capitalisation par ailleurs. Mais
de partir sur complètement autre chose.
Oui, on est sur la retraite. Je pense qu'on est arrivé au bout de nos sujets. Et on est, ce qu'on a constaté surtout, c'est qu'on avait une suppression de services et due à une suppression de financement des collectivités et de l'État. Enfin, il me semble que c'est la conclusion que vous pouvez
tous les deux tirer. Mais 3 400 milliards d'euros de dette publique, parce qu'à un moment, il n'y a plus d'argent.
Bien,
donc,
eh bien
prendre l'argent là où il est.
C'était donc Table ovale sans ellipse qui ce soir réunissait Steve Bonneau pour Reconquête et Nicolas Bourgeon pour La France Insoumise. Je vous remercie, à bientôt.
Merci.
Merci.